Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndani Kabala.
Révision constitutionnelle. Le face-à-face est désormais lancé entre la C64 de l'opposition et la C4 de l'UDPS Tshisekedi. À peine 24 heures après la création par l'opposition de la coalition article 64, le parti présidentiel a répliqué en annonçant sa propre plateforme et la coalition des Congolais pour le changement de la constitution en sigle C4. Deux camps, deux visions et un affrontement politique qui s'installe autour de l'avenir institutionnel du pays. Lutte contre le virus Ebola. Une alerte vient d'être lancée en Ituri. Des désinfectants périmés seraient vendus dans certaines officines et boutiques censées servir à la riposte contre la maladie. Face à cette situation jugée scandaleuse, des activistes de défense des droits humains interpellent les autorités. Ils exigent que les auteurs de ce qu'ils qualifient de mafia répondent de leurs actes. Les principales forces politiques de l'opposition ont officiellement lancé mardi 19 mai 2026 à Kinshasa. La plateforme est dénommée Coalition Article 64 et C64 pour la défense de l'ordre constitutionnel en RDC. La mise en place de cette plateforme était au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin. La bataille politique autour de la Constitution est désormais ouverte. À peine 24 heures après la naissance de la coalition C64 portée par l'opposition, le parti présidentiel UDPS Tshisekedi a répliqué en annonçant la création de la coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, la C4. Cette contre-offensive a été officialisé hier mercredi. Derrière cette guerre de coalition, deux visions s'affrontent désormais sur l'avenir politique du pays. D'un côté, l'opposition accuse les camps présidentiels de préparer un troisième mandat pour Félix Tshisekedi. De l'autre, l'UDPS défend un projet présenté comme l'héritage politique du défunt Étienne Tshisekedi. Les explications de Grâce Hamzati.
Le débat sur la révision ou le changement de la Constitution prend une nouvelle tournure politique en RDC. Après la création mardi de la coalition C64 par plusieurs figures de l'opposition, le parti présidentiel UDPS Tshisekedi est entré à son tour dans l'arène avec la création de la plateforme C4. L'annonce a été faite par le secrétaire général du parti, Augustin Kabuya, sur son compte Facebook. Selon lui, cette coalition réunira partis politiques, sociétés civiles, confessions religieuses et mouvements associatifs autour d'une campagne en faveur du changement de la Constitution. Le chiffre 4 retenu pour les sigles C4 symbolise, selon le parti présidentiel, les quatre zones linguistiques du pays. En face, la coalition C64 dit vouloir barrer la route à toute révision constitutionnelle qu'elle considère comme une tentative d'ouvrir la voie à un troisième mandat du président Félix Tshisekedi ou à un glissement électoral. Mais au-delà des discours politiques, plusieurs observateurs redoutent surtout une montée des tensions sur le terrain. Ces derniers jours, des militants et sympathisants des deux camps ont déjà montré des signes d'hostilité sur les réseaux sociaux et lors de certaines mobilisations politiques. Une polarisation qui, si elle n'est pas maîtrisée par les leaders politiques eux-mêmes, pourrait alimenter des affrontements entre partisans et fragiliser davantage le climat social et politique du pays.
Toujours hier mercredi, une nouvelle plateforme politique a vu le jour à Kinshasa. Elle porte le nom de Congolais article 63. Ce regroupement rassemble les partis politiques, organisations de la société civile et personnalités indépendantes. Sa mission, mobiliser le peuple congolais pour défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté nationale et la patrie face à l'occupation persistante de certaines zones de la RDC par des forces armées venues du Rwanda et de l'Ouganda. À sa tête, Dieudonné Nkishi Kazadi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité, c'est aussi l'épidémie d'Ebola. En Ituri, une alerte vient d'être lancée concernant la vente des désinfectants périmés dans certaines boutiques et officines pharmaceutiques censées servir à la riposte contre la maladie. Face à cette pratique jugée scandaleuse, des défenseurs des droits humains et des acteurs de la société civile haussent les tons. Ils interpellent les autorités afin que les responsables de ce qu'ils qualifient de mafia répondent de leurs actes. Reportage signé Martial Kizabiamongo.
Dans les rues et différentes ardeurs des Bouniens, différents produits et articles utilisés dans la prévention et la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la ville sont vendus en grande quantité par des opérateurs économiques dans des boutiques et officines pharmaceutiques et également par des ambulants. Cependant, parmi ces produits, on trouve des désinfectants périmés pour les mains et d'autres mélangés d'eau. Témoignage de cette femme de ménage.
Exactement, hier j'ai acheté des effets périmés. Je n'ai pas pu regarder la date de l'expiration parce qu'on achète ça dans des pharmacies, mais nous sommes dessus.
Des activistes des droits humains et acteurs de la société civile parlent d'une pratique scandaleuse qui met la vie de milliers de personnes en danger. Maître Eddy Makindou, l'un d'eux.
Qu'est-ce qu'ils font ces commerçants? Ils impriment plusieurs étiquettes avec de nouvelles dates de fabrication et de nouvelles dates de péremption. Je trouve personnellement que c'est un sabotage sanitaire.
Le chef de la division provinciale de l'économie à l'Ituri promet d'envoyer sur le terrain des inspecteurs afin de mettre fin à cette situation. Depuis la ville de Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Entre-temps, dans le Nord Kivu et l'Ituri, un autre défi se pose. Des doutes persistent sur l'existence même de la fièvre hémorragique d'Ebola. C'est dans ces contextes que la mission d'aide aux personnes en détresse lance un message clair. Laissons de côté les doutes et les discussions autour de cette maladie. Ebola existe. Unissons-nous pour y faire face. Un appel lancé alors que certaines communautés continuent de résister aux mesures de prévention, favorisant ainsi la propagation du virus. Pour Théophile Katembo, coordonnateur de cette mission, Ebola est une réalité. Ce n'est ni une invention, ni une théorie complotiste, mais une maladie qui tue. Il invite les populations à une prise de conscience collective en respectant les gestes et barrières. Théophile Katembo s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
La mission d'aide aux personnes en détresse, là c'est un appel à la population du Nord qui vous aide l'Ituri ainsi que des provinces voisines que la maladie est réelle et qu'elle doit prendre des mesures de protection et de prévention, notamment lavage de mains et dénoncer d'urgence aux structures de santé les cas qui présentent des signes. Donc d'y aller, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas de la mépris ou de la guerre, c'est une maladie, c'est une réalité que nous avons déjà vécu plusieurs fois. Pour ce, nous demandons à toute personne qui a encore des doutes de comprendre que la maladie est là, un danger pour la vie, et c'est pourquoi nous tous, nous devons rester unis afin de lutter contre cette épidémie qui est encore dans notre mire.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Elle qualifie désormais de élever le risque épidémique lié à la souche Bundibugyo au niveau national et régional. L'annonce a été faite hier mercredi lors d'une conférence de presse tenue à Genève. L'OMS précise toutefois que cette épidémie d'Ebola, dont l'épicentre se trouve dans la province minière de l'Ituri, n'est pas une pandémie, mais l'organisation redoute une propagation rapide du virus en raison de la forte densité des populations et de la présence de nombreux camps de déplacés dans la zone. Les détails avec Michel Kifindango.
C'est une décision rare qui traduit la gravité de la situation sur le terrain. À ce jour, l'OMS comptabilise officiellement 51 cas confirmés en RDC et 2 en Ouganda. Mais les autorités redoutent une réalité bien plus lourde avec déjà plus de 600 cas suspects. L'épidémie touche désormais les villes stratégiques comme Bunia et Goma. Le défi est double pour les équipes sanitaires. D'une part, la souche isolée est le virus Bundibugyo, une variante contre laquelle il n'existe aucun vaccin homologué à ce jour. D'autre part, les violences armées qui se sont intensifiées en Ituri ont jeté sur la route plus de 100 000 déplacés, rendant le suivi des cas extrêmement complexe dans ces zones minières à forte mobilité. Pour tenter de circonscrire le feu, l'OMS a porté son assistance financière à près de 4 millions de dollars et intensifie le déploiement de ses experts. En l'absence de traitement, l'accent est mis sur la sensibilisation des communautés et la surveillance stricte des frontières pour briser la chaîne de contamination.
Fermeture des frontières entre la RDC et le Rwanda, Le ministre congolais de la Santé juge cette décision d'illégale quand on sait qu'il y a une épidémie au Congo et c'est condamner tout un peuple à la mort. Le ministre Roger Kamba répondait à la question d'un journaliste lors du briefing de presse co-animé avec son homologue de la communication et médias Patrick Muyaya Katembwe ainsi que le docteur Jean-Jacques Muyembe, directeur général de l'INRB, mardi dernier ici à Kinshasa. Écoutez le ministre de la Santé publique, Roger Kamba.
D'abord, nous avons dit que c'est illégal de fermer la frontière quand on sait qu'il y a une épidémie. Parce que ça veut dire qu'on décide délibérément de condamner. Et pour la petite histoire, le peu de ressources qui passaient par les humanitaires passaient par cette frontière-là. Quand vous fermez cette frontière, vous prenez une responsabilité devant l'histoire que vous décidez d'exposer à la population. Alors, de mon point de vue, la solution est très simple. Laissez-nous gérer nos épidémies nous-mêmes, rentrer chez vous. Comme on l'a dit et répété, nous savons, avec l'expertise que nous avons, avec nos 16 épidémies précédentes, nous savons quelles sont les mesures que nous devons prendre pour résoudre ce problème. Le monde peut se rassurer parce que souvent dans le monde, ce qui se passe, c'est que on va chercher des experts pour répondre à un problème. L'avantage de la RDC, c'est que les experts sont déjà sur place.
Au moins 17 civils ont été tués mardi lors d'une nouvelle attaque dans le village d'Alima, à quelques kilomètres de Biakato centre, dans le territoire de Mambasa, en Ituri. L'attaque est attribuée aux combattants des ADF. Des maisons et commerces ont été incendiés, tandis que plusieurs habitants restent portés disparus. La société civile alerte sur la progression des assaillants vers d'autres villages de la région. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Le bilan provisoire de l'attaque attribuée aux rebelles des ADF mardi à Alima, dans la chefferie de Babila Babombi, en territoire de Mambasa, fait état d'au moins 17 civils tués, selon des sources de la société civile. Les assaillants auraient d'abord été signalés dans les environs du village vers 11h locale, où deux personnes auraient été exécutées avant l'attaque du centre d'Alima, malgré l'alerte donnée aux services compétents, selon des sources locales. Au cours de cette incursion, un hôtel, plusieurs kiosques et des motos ont été incendiés. Des chèvres ont été également emportées par les assaillants. Selon les mêmes sources, plusieurs personnes restent encore portées disparues, tandis que certaines zones demeurent difficilement accessibles. Ce mercredi matin, les assaillants ont poursuivi leur progression vers le village de Manyama, où deux autres civils auraient été tués et plusieurs maisons incendiées. Face à cette situation, les acteurs de la société civile appellent les autorités militaires à renforcer urgentement la sécurité dans plusieurs villages de la zone. Contacté, l'administrateur du territoire de Mambasa promet de se prononcer à ce sujet ultérieurement. Bounia, Jean-Claude Douki, Dile, Radio Okapi.
L'actualité prend un tout autre chapitre. À Kinshasa, la capitale croule sous les immondices, les embouteillages monstres et des chantiers interminables qui perturbent chaque jour la vie des Kinois. Ces préoccupations ont fait l'objet d'une question orale adressée hier mercredi par les députés provinciaux Aubin Makanu Isukama au gouverneur de la ville. L'élu affirme que le peuple a le droit de savoir où vont les taxes et les recettes publiques. Qui contrôle les fonds engagés dans les grands projets? Pourquoi les chantiers n'aboutissent pas? Et comment certaines dépenses de prestige continuent alors que Kinshasa étouffe? On écoute Aubin Makanu dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Au nom du peuple kinois, nous refusons de rester silencieux face à l'effondrement progressif de la gouvernance de Kinshasa. Notre démarche n'est ni un règlement des comptes, ni une agitation politicienne. Elle procède d'un devoir républicain face à une ville qui souffre chaque jour davantage. Pendant que l'exécutif provincial multiplie les annonces et les opérations de communication, les Kinoises et les Kinois subissent les routes dégradées, les embouteillages inhumains, les chantiers interminables, l'insécurité, l'insalubrité, les marchés anarchiques, les services publics paralysés et les salaires impayés. Kinshasa souffre, Kinshasa étouffe, Kinshasa recule. Le peuple a le droit de savoir où va l'argent des taxes et les recettes publiques, qui contrôle les fonds engagés dans les grands projets, pourquoi les chantiers n'aboutissent pas et comment certaines dépenses de prestige continuent pendant que Kinshasa étouffe. Quelles sont les véritables priorités budgétaires pour 2026? Où sont les rapports d'exécution budgétaire? Où sont les résultats visibles pour la population? Comment justifier des projets coûteux des résidences officielles du gouvernement ainsi que du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et d'un nouveau siège du Parlement provincial pendant que Kinshasa croule sous les immondices, l'insécurité et les routes inachevées?
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient. Le président américain Donald Trump a déclaré que la guerre pourrait se terminer très rapidement, tandis que le vice-président J.D. Vance a fait état de progrès dans les discussions avec Téhéran portant sur un accord pour mettre fin aux hostilités. Pour le négociateur en chef iranien Ghalibaf, les États-Unis cherchent à déclencher une nouvelle guerre.
L'invité.
Les principales forces politiques de l'opposition ont officiellement lancé mardi 19 mai à Kinshasa une nouvelle plateforme baptisée Coalition Article 64 ou C64. Objectif, défendre l'ordre constitutionnel en RDC. À travers cette initiative, l'opposition rejette toute réforme de la Constitution et toute perspective d'un troisième mandat du président Félix Tshisekedi. La mise en place de cette coalition était au cœur du débat dans l'émission Dialogue entre Congolais divisés hier mercredi. On écoute les intervenants au micro de Guy Matetsongo.
Mike Nkebaye, vous êtes député provincial honoraire, vous êtes coordonnateur provincial pour la ville de Kinshasa, du parti politique Ensemble pour la République, parti membre de l'opposition. D'abord, pourquoi la coalition article 64, pourquoi pas article 5 ou article 4?
C'est l'article 64 qui donne devoir. Il dit même pas qu'il s'agit d'un droit, mais d'un devoir à tout Congolais de s'opposer à tout autre Congolais ou à n'importe quel groupe de Congolais qui accède au pouvoir par la force ou qui, une fois au pouvoir, essaie de les conserver en violation de la Constitution. Donc c'est cet article, en fait, qui nous donne mandat pour agir.
Et comment espérez-vous atteindre votre objectif dans un contexte où l'opposition est considérée comme une opposition Yanzala, opposition YAPT, comme pour dire que l'opposition n'a pas la capacité d'empêcher le pouvoir à changer la Constitution?
À notre niveau, sur le plan stratégique, on est très heureux que Félix Tshisekedi présente l'opposition sous ces jours-là comme une opposition faible. C'est comme ça que l'opposition était perçue en 2015 par les officines de Joseph Kabila. À l'époque, il disait que, un, les Kinois, ils sont incapables de tenir 3-4 jours dans la rue parce qu'ils vivent au jour le jour. Et ensuite, quand ça crépite, ils détalent. Et c'est sur cette base-là qu'ils avaient fondé, en fait, la certitude qu'ils allaient faire passer la fameuse loi électorale qui postposait les élections sine die pour privilégier l'organisation du recensement. Cette loi a été soumise à examen à l'Assemblée nationale. Elle est passée. Souvenez-vous qu'à l'époque, l'opposition avait appelé à manifester et qu'elle n'a pas pu arrêter cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. Obaminaku, président de l'Assemblée nationale, s'était moqué de nous. C'est quand finalement cette loi arrive au Sénat et que les gens s'attendent le moins du monde qu'elle peut être bloquée, surprise, les Kinois ont battu le pavé pendant une semaine et que Kabila a reculé.
Pourquoi vous rappelez cette période-là? Est-ce que aujourd'hui, l'opposition bénéficie des conditions dont elle bénéficiait à l'époque? C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des mouvements citoyens qui étaient avec l'opposition. À l'époque, il y avait même l'Église catholique qui était avec l'opposition. Est-ce que vous bénéficiez de tous ces appuis-là aujourd'hui?
Nous n'avons pas à bénéficier ou à aller chercher l'appui de l'Église catholique. L'Église catholique a toujours été un allié traditionnel aux aspirations du changement.
Merci. Peter Kazadi, vous êtes avocat, vous êtes député national élu de la ville de Kinshasa et cadre de l'UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Comment vous comprenez la mise en place de la plateforme de l'opposition dénommée Coalition Article 64?
Les amis, d'abord, c'est de leur droit de se constituer en un cartel pour espérer combattre le pouvoir. Et c'est ça le rôle de l'opposition. L'opinion se souviendra qu'ils ne sont pas à leur premier rassemblement et jusque-là, nous ne sentons rien. Et je suis sûr que Mike Mukebaye sait que la politique, c'est avant tout un rapport de force. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas capables de mobiliser la population pour que celle-ci se rallie à leur cause, ils peuvent vous crier comme ils le font. Nous n'arrêterons pas d'avancer.
Et donc, on voulait dire que le rapport de force sur le terrain actuellement est en faveur du régime en place?
Non, c'est en faveur du peuple. Le peuple soutient le régime parce que il reçoit des réponses à ses besoins.
Merci Christian Moleka, vous êtes analyste politique et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Quelle analyse vous faites de la mise en place de la plateforme de l'opposition dénommée Coalition Article 64?
Je crois que ce sont des manœuvres, hein, de manœuvres politiques de positionnement. Nous avions senti à un moment donné que la famille présidentielle s'organisait, qu'en face l'opposition ne prenait pas l'élan de se structurer. Là, l'opposition congolaise a donné, en tout cas une partie de l'opposition, le signe qu'ils pouvaient se réunir de manière conjoncturelle autour d'une cause. l'histoire récente a démontré que soit les dynamiques tout sauf Kabila ou les questions concernées ont toujours été des questions fédératrices pour l'opposition. Et donc, cette manœuvre-là nous positionne sur des possibles contestations de la rue comme on l'a connu dans le passé. L'équation qui demeure, c'est est-ce que l'opposition aura les mêmes capacités qu'en 2015, qu'en 2016 pour drainer dans la rue la population.
Justement, on se rappelle ce qu'étaient les actions de l'opposition en 2016-2015 qui avaient réussi, n'est-ce pas, à faire reculer le régime Kabila. Et vous pensez que dans les contextes du moment, l'opposition a les mêmes capacité qu'elle avait utilisée à l'époque pour lui permettre d'obtenir gain de cause?
La faiblesse stratégique de l'opposition, c'est que l'UDPS vient de l'opposition et que d'une certaine manière, l'UDPS connaît ce que comme stratégie l'opposition utilise dans le passé. Et donc l'opposition devrait se réinventer. Si elle entend rééditer les exploits d'hier, eh bien l'UDPS qui a longtemps mis à l'opposition sait comment contrer les approches qu'elle a même utilisées dans le passé, dans les passés récents.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal du matin, coordonné et supervisé par Livin Mwingavubu et mis en onde par Alain Goy. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.